Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est donc retour en onde. Je voulais prendre un petit temps avant de commencer ma chronique sur Nordvolt. Je sais pas ce que t'en as pensé, Noémie, mais c'était vraiment cool là, ce qu'il nous a parlé, M. Bourbonnais, là, justement, sur Jean de Camion. Je sais pas, moi, je trouvais ça vraiment le fun. Ça me donnait envie d'y aller.
Définitivement, là, on a eu la chance de discuter avec lui là, après, quand justement, vous étiez en pause. Puis, une personne très agréable, là, en plus, super gentille. Je vous, pour tous ceux-là qui sont du milieu des médias, là, je vous recommande M. Bourbonnais, là, puis d'y donner sa chance là, de pouvoir promouvoir justement tout ce qu'il fait. Puis justement, c'est le fun de voir que son organisme là, a pu prendre vraiment une place plus importante. Je pense que tu parlais en Ontario, si je ne me trompe pas.
Oui, même au Manitoba, là, c'est fou.
Exactement. Puis pour promouvoir la langue française également, je trouve ça très important. Également, tout ce qui touche les enjeux sociaux qui concernent nos jeunes, qui nous concernent en fait, là, c'est très pertinent.
Donc, on embarque directement là, sur c'est quoi en fait le petit projet Nordvolt là? Je dis petit projet, c'est tout sauf petit, vous allez voir. Donc en fait, c'est ça le projet Nordvolt, c'est l'implémentation en fait de l'entreprise Nordvolt à McMasterville. Donc, c'est qui Nordvolt? C'est une entreprise suédoise spécialisée dans la production de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques et d'autres applications de stockage d'énergie. Vite comme ça, là, ça fait les batteries pour les véhicules électriques. C'est ça. Donc, elle s'est fondée en 2016 par Peter Carlson, qui est un ancien CEO de Tesla, et de Paolo Cerutti, un acteur majeur de la production. Puis, ça fait que ce sont des acteurs majeurs de production de batteries en Europe. Donc, en fait, c'est ça, le projet de McMasterville, ça va être la sixième installation de l'entreprise dans le monde. Il devrait comprendre une usine de fabrication de cellules, de batteries et une usine de recyclage de batteries. C'est un terrain de 172 hectares qui va chevaucher Saint-Basile-le-Grand et McMasterville le long de la route 116 qui est le boulevard Wilfrid-Laurier, si je me souviens bien. C'est un projet qui est estimé à 7 milliards de dollars. Le projet de Nordvolt est présenté comme le plus important investissement privé de l'histoire du Québec et devrait fournir plus de 3000 emplois. C'est notamment endossé par François Legault et Justin Trudeau, donc un support provincial et fédéral. Il y a plusieurs enjeux autour de ce projet-là. C'est notamment des enjeux que je pourrais dire local, là. Donc je vais les nommer. Il y a des enjeux de bruit, de logement, du trafic du haut véhicule et de destruction de l'environnement. Donc pour le bruit, en fait, là, c'est vraiment pour faire vraiment comme un survol justement de c'est quoi cet enjeu-là, là, mais est-ce que tu avais une question, Noémie? Non, ok, parfait. Donc, c'est ça, en ce qui concerne le bruit, donc en fait, selon l'entreprise, il ne va avoir aucun bruit là, de la production de batteries, donc ça ne devrait pas déranger les locaux, notamment parce que tout est fait à l'intérieur. Ils disent que, selon les rapports, là, que en fait, même sur le terrain de l'entreprise, ça va être difficile d'entendre le bruit. Donc, techniquement, il ne devrait pas avoir d'enjeu-là, mais ça reste quand même un questionnement de la part de la population. Ensuite, il y a des questions de logement, notamment en crise du logement. On parle de 3000 personnes que cette entreprise-là va embaucher. Ces 3000 personnes-là, je suppose qu'ils ne vont pas toutes venir de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville. Donc, ils vont devoir loger ces personnes-là. Mais ils disaient que, notamment, vu que le projet, là, il n'allait pas avoir de grandes avancées, là, mais il n'est pas prêt pour être fini avant au moins 2030. Donc, il disait qu'il allait avoir le temps de justement arranger tout ce qui concernait ça et qu'il y a beaucoup de logements dans cette région-là. Il disait qu'il n'allait pas avoir d'enjeu concernant ça. Ensuite, ce qui concerne le trafic de véhicules, ben c'est ça, c'est sur le boulevard Wilfrid Laurier. Ils ont mis en place un plan de camionnage qui est supposé être temporaire. Justement, ce plan de camionnage-là va faire que la majorité des véhicules vont être en dehors des heures de pointe et que ça représenterait seulement 0,49% d'achalandage pré-pandémique. C'est pas le sujet chaud du sujet, mais je trouvais que super important d'en parler quand même, parce que c'est quand même des questionnements que les personnes qui vivent là se posent la question. Puis tu sais, je veux vraiment comme englober le plus possible là, le plus d'éléments dans ma chronique. Puis là, on rentre vraiment dans le sujet chaud, en fait. Là, c'est la destruction, en fait, notamment des terrains humides qui vont être qui est sur ce terrain-là. Donc, en fait, Norvolt a acheté un terrain industriel qui était auparavant contaminé. Puis dans ce terrain industriel-là, en fait, c'est en partie un terrain humide et boisé. Et il y a certaines parties d'ailleurs encore de ce terrain-là qui sont encore contaminées. Puis il y a plusieurs oiseaux, en fait, menacés qui habitent ces lieux humides-là. Puis justement, la revendication de plusieurs groupes environnementaux, là, c'est qu'en fait, la destruction de ces terrains humides-là, peu importe les mesures d'atténuation qui ont été mises en place, ça va quand même perturber l'habitat justement de ces oiseaux-là. Et justement, là, je vais y revenir plus tard, là, mais en mars dernier, il y a un projet immobilier qui a été bloqué parce qu'il y avait une atteinte, en fait, à la conservation de la biodiversité, notamment à cause des mesures d'atténuation suffisantes. Donc, ce qu'on suppose, c'est que Norvolt aurait fait des mesures d'atténuation suffisantes pour le gouvernement du Québec pour se mettre en place. Donc, on va y revenir, ça. Il y a plusieurs controverses autour du projet Norvolt, notamment... de la part du Centre québécois du droit de l'environnement, la CQDE, et de trois citoyens, en fait, ils ont fait une demande d'injonction provisoire qui suspend immédiatement ils demandaient une suspension immédiate des travaux du projet d'usine de batterie dans cette région. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec quelqu'un en droit qui va pouvoir m'expliquer un petit peu c'est quoi exactement une demande d'injonction provisoire.
En droit, tu me donnes beaucoup d'éloges. Je suis en politique, mais je chemine en droit.
C'est la même chose.
Pour toi, c'est la même chose, mais pour moi, non. C'est ça, je vais y aller au mieux de ma connaissance pour essayer de vous expliquer ça de manière plus claire et simple. En fait, une injonction provisoire, là, c'est une ordonnance que le tribunal émet de manière préalable là, avant qu'une affaire soit jugée sur le fond. Ça vise vraiment à venir prévenir des dommages immédiats ou irréparables là, pendant la durée du litige. Ici, dans ce cas-là, il demande justement de suspendre là, les travaux. Parce que, justement, s'ils commencent les travaux, ça va directement avoir un impact là, sur la biodiversité. Fait qu'ils veulent limiter ça. C'est pour ça que, justement, ils ont émis cette injonction provisoire. J'espère que pour nos auditeurs, là, c'est un peu plus clair. Jay, toi qui étais moins familier avec ça, est-ce que t'as bien compris?
Oui, bien, c'est clair. Puis là, je comprends, en fait, pourquoi, justement, Marc Bichet, là, qui est un avocat là, de la CQDE, là, le Centre québécois du droit de l'environnement, il dit constamment qu'il y a beaucoup de questions en suspens dans le projet de l'usine Norvolt et qu'il y a un manque de transparence à part du gouvernement, qui aurait des impacts irréversibles sur la biodiversité. Fait que c'est en fait, si j'ai bien compris, c'est qu'il mise là-dessus, justement, sur ces critères-là, pour justement justifier son injonction provisoire.
Ben exactement, il faut vraiment qu'il y ait, dans le fond, il faut qu'il y ait une nature là, temporaire de tout ça, puis qu'il y ait des conditions spécifiques, là, notamment le fait qu'il faut qu'il y ait une intervention immédiate, puis qu'il y ait un risque imminent de préjudice, là, comme je disais préalablement, irréparable si l'injonction n'est pas accordée.
Ouais, puis il y a eu une autre, en fait, action judiciaire là, de la part du Conseil Mohawk de Kanawaki qui ont lancé une action de justice, en fait, contre les gouvernements du Québec et du Canada dans le dossier de Norvolt. En fait, la démarche devant les tribunaux stipule que l'autorisation du projet a été accordée sans respecter le devoir de consultation des Premières Nations. Encore une fois, j'ai demandé à ma collègue, justement, de différencier qu'est-ce qui est la différence entre un petit peu une injonction provisoire puis une action de justice qu'est-ce qu'est le devoir de consultation, là, un petit peu?
En fait, c'est l'obligation de consulter les Premières Nations. Là, ça découle, en fait, de la reconnaissance des droits issus des traités historiques reconnus, justement, par la Constitution, soit la loi suprême du Canada. Fait que c'est vraiment l'obligation du gouvernement de respecter ses droits ancestraux vis-à-vis des peuples autochtones. Là, vraiment, c'est un droit qui découle également là, du principe de nation to nation, là, qui affirme la relation distincte entre les Premières Nations et le gouvernement. Fait que ça, c'est vraiment comme un processus qui vise à s'assurer qu'aucun droit des Premières Nations va être brimé là, dans la prise de décision gouvernementale qui pourrait avoir un impact sur leurs droits. Notamment, on sait très bien que les Premières Nations sont très attachées à tout ce qui est relié à la nature. Donc, c'est ce qu'ils mettent de l'avant. Là, puis, cette obligation-là, dans le fond, l'obligation, plus il va avoir d'impact fac, plus l'obligation de consultation va être grande. Donc, dans ce cas-ci, ça va vraiment... Bien, dans ces cas-là, c'est vraiment du cas par cas. Donc, je crois qu'on avait vérifié un petit peu hier là, par rapport où est-ce que la nation se trouvait par rapport au projet. Puis, c'est dans les alentours. Là,
c'est pas exactement à côté, mais tu sais, oui, là, c'est, les deux sont sur la rive sud de Montréal. Les deux sont considérés comme étant dans le Grand Montréal.
Oui, exactement. Puis, sinon, c'est ça, là, justement, Jérémy disait qu'on allait revenir là-dessus par rapport au fait qu'il disait...
Les mesures d'atténuation...
Exactement.
C'est quoi les mots exacts? Là, excusez, j'y tiens. Les mesures d'atténuation insuffisantes pour le projet d'immobilier. Donc là, on suppose que Northvolt aurait des mesures d'atténuation adéquates.
Oui, mais encore là c'est à savoir, tu sais, ces mesures d'atténuation-là, est-ce que ça vient vraiment réparer le préjudice qui va être causé? Je peux pas mettre à la place, justement, de ceux qui ont fait cette demande d'obligation de consultation, mais à mon humble avis, je croirais pas, là, on va revenir justement sur ce qui a été mis en place là, pour essayer d'atténuer ça, puis selon moi, c'est vraiment... ça compense pas, honnêtement, là...
Oui, donc c'est ça, en fait, Northvolt a mis en place là, plusieurs... je vais y aller rapidement, là. Ils ont mis en place, notamment, qu'ils allaient replanter des arbres, qu'ils allaient en mettre en place une aire de conservation. Donc, en fait, c'est qu'ils vont... C'est le problème, en fait, c'est qu'ils vont raser ces terrains humides-là. Je pense que ça tournait autour des 80%, là. Ils allaient raser 80% des terrains humides qui étaient sur ce terrain-là de 172 hectares, et qu'il allait compenser. C'est juste que c'est ça. Les terrains humides, ils vont pas les refaire. Donc, ils vont menacer l'existence de plusieurs espèces d'oiseaux. Et justement, là, ils vont mettre en place une aire de conservation. Mais tu sais, si les oiseaux ont finalement été... ou tu sais, si finalement ça rend cette espèce-là en danger, ben justement, comme on parlait de préjudice, ben il va peut-être pas avoir été réglé. Donc là, je tiens à préciser, là, on se positionne pas nécessairement sur exactement si Northvolt est correct ou pas correct. Moi, c'est des enjeux qui me dépassent un petit peu, mais on essaie de simplifier un peu le tout là, pour la population, puis que tout le monde comprenne un petit peu. Et là, finalement, là, je vois que notre temps écoule un petit peu. Fait que je vais faire rapidement une petite parenthèse sur le BAP. En fait, le Northvolt n'est pas sujet au BAP. En fait, le BAP, là, c'est vraiment une enquête environnementale. Et en fait, là, en février dernier, François Legault a changé, en fait, le plafond le plancher, en fait, nécessaire pour subir un examen du BAP. Donc, il est passé jusqu'à 60 000 tonnes métriques. Et surprenamment, là, le Northvolt va produire, en fait, 57 000 tonnes métriques de batteries, en fait. Donc, ils vont se retrouver juste en dessous de la limite et ils vont donc pas être subis, en fait, à l'examen du BAP. Ils vont subir un examen du BAP, mais seulement pour le côté recyclage, en fait, des batteries. Donc, en fait, c'est ça, justement, les grandes lignes, justement, de ce projet-là. Puis pourquoi de la controverse, pourquoi les gens, ils se questionnent un petit peu sur le réel bon fondement, justement, de ce projet-là. D'ailleurs, il y a eu des sabotages aussi qui ont été faits sur les lieux. Donc, ils ont mis des grands clous dans les arbres. Les clous, dommage, supposément peu, là, je m'y connais pas dans la question, mais c'est dommage, supposément peu les arbres, mais détruisent la machinerie lourde. Donc, en fait, là, c'est ça. On va voir dans les prochaines semaines, prochains mois, là, d'après moi, ça va prendre très longtemps avec toute cette affaire-là, ça découle. Et... je vais vous laisser, en fait, pour une petite pause publicité et on revient après la pause pour la chronique sur Hockey Canada. Non, c'est pas vrai, en fait, on va parler, en fait, des élections de trois pays. Après la pause.